On a fini sur une note qui m'a beaucoup parlé sur cette question du deuil. Je ne pensais pas forcément parler de ça là maintenant, mais je trouve que voilà, ça fait suite aussi à ce que tu as évoqué, Denis. Cette semaine, j'ai été à l'enterrement d'une collègue qui avait une cinquantaine d'années et qui est morte d'un cancer foudroyant. On a su qu'elle était malade au début de l'été. Elle nous avait dit, bon, bah, en fonction de comment je vais à la rentrée, de toute façon, voilà, on fera des plans. Et puis après, bah, il n'y a pas eu de rentrée pour elle. Et ça a été évidemment très dur pour l'ensemble des collègues. Et cet enterrement, c'était un enterrement non religieux. Elle ne croyait pas en Dieu. Et en fait, je crois que c'est la première fois où j'ai un enterrement où il n'y a pas de cérémonie. Et donc il y avait son mari, ses enfants, c'était dur. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est rare d'aller à un enterrement. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'allais à un enterrement où c'était vraiment le point final. Et la terreur dans les yeux de mes collègues qui voient le trou ouvert et qui disent, voilà, c'est comme ça que ça se termine. Bon, c'était pas le lieu pour parler de mon espérance. Je pense que ça aurait été bizarre. J'ai pas pu parler. Mais n'empêche que ça fait réfléchir et on voit la détresse vraiment, y compris des proches évidemment, mais de ceux qui sont moins proches comme moi, qui sont des collègues, qui voilà, on la connaissait un peu parce qu'on la voyait souvent, mais c'est pas non plus, c'était pas une intime. Mais ce trou béant et. Et j'en suis rentré en me disant, bon, évidemment, triste, surtout parce que la famille, c'était triste à voir, et aussi en me disant, mais un enterrement, on ne parle pas de foi, d'espérance, d'amour, un enterrement où il n'y a pas de chant, il n'y a pas de cantique, où il n'y a rien. Vraiment, ça s'arrête là. On met de la terre et c'est fini. Si c'est glaçant, c'est vrai. Et ça m'a rendu très triste pour tous ceux qui étaient là et me dire, ben voilà, c'est vrai, il n'y a pas de parole. On peut rien faire à part être là, évidemment. Mais il n'y a rien qui puisse nous consoler. Alors je ne dis pas que c'est facile quand on est croyant. Hein. On sait bien que la mort, elle a aussi une réalité qu'on regarde en face. Et elle a ce côté définitif, c'est certain. Il y a aussi, évidemment, ce côté-là, même quand on est croyant. Mais voilà, on a rappelé ce matin aussi à la fois ce côté dur et qu'il ne faut pas nier, je pense. Et en même temps, il y a aussi cette réalité dans laquelle on croit d'une perspective qui est éternelle. Et ça m'a guidé à réfléchir cette semaine sur l'espérance. Sur l'espérance et la façon dont la Bible en parle. Et alors, je ne vais pas parler de tout ce que la Bible dit sur l'espérance, mais simplement voilà, m'arrêter sur un verset qui nous parle de l'espérance et la façon dont la Bible en parle. Et ce verset, il se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6. C'est le verset 19 du chapitre 6. Et la Bible nous dit, voilà, cette espérance proposée, laquelle nous avons comme une encre de l'âme, sûre et ferme, et qui entre jusqu'au dedans du voile où Jésus est, où Jésus est entré comme précurseur pour nous. Voilà, cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour l'âme, dans une autre traduction, elle pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré. Et je voulais m'attarder sur cette image de l'encre et ce qu'elle veut dire pour nous et la façon dont on peut se souvenir voilà, de cette espérance comme une encre solide et ferme pour notre âme. Alors une encre, évidemment, ça nous fait rentrer tout de suite dans le langage maritime. Et c'est étonnant quand la Bible, comme ça, choisit une image. On nous demande toujours, mais d'où ça sort? Pourquoi, tout d'un coup, il vient nous parler d'encre à cet endroit-là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Et finalement, c'est une image qui nous parle jusqu'à aujourd'hui, puisque on a toujours des bateaux et on a toujours des ancres. La technologie n'a pas beaucoup évolué, et donc on voit très bien ce à quoi l'auteur ici fait référence. Et vous savez, j'aime bien regarder, je vais dire c'est un peu bizarre de faire ça, mais J'aime bien regarder sur Insta les images, vous savez, des gros navires qui sont pris dans la tempête. C'est très impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, avec des champs de marins derrière, généralement. Alors, il n'y a pas forcément la fin de Titanic, mais on voit ces énormes vagues, ces creux, c'est hyper impressionnant. Et on se dit, wow, quand même, ceux qui travaillent là, c'est quelque chose. Faut être accroché, quoi, faut être costaud. Et finalement, quand la mer se déchaîne, quand les vagues font plusieurs mètres de haut, il y a des creux qui sont très impressionnants, les vents qui hurlent. J'imagine que même si on est un marin chevronné, quelque part, l'équipage doit être un petit peu inquiet. Quand on annonce une tempête à la radio, ça doit, on se prépare, mais ça ne doit pas non plus être la routine. Je pense qu'il y a quelque part une inquiétude. Et au bout d'un moment, si ça tangue trop, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il y a une chose à faire, c'est de jeter l'ancre. Alors, ça ne veut pas dire que l'ancre qui est toute rouillée, qui descend au fond de la mer, elle va arrêter la tempête. La tempête, elle va continuer, le vent va continuer. Mais il y a une seule chose que l'ancre peut arrêter, c'est que le navire continue de dériver. Et ça, c'est certainement ce qui est recherché, c'est de ne pas être pris complètement dans cette tempête et ne plus savoir où on est et au pire être fracassé contre des rochers, puisque c'est ultimement ce qui peut arriver. Donc finalement, l'ancre, elle nous donne bien cette image que l'équipage ne peut pas être sauvé par ses propres forces, il n'y a rien à faire face à cette tempête, ce n'est pas le courage des marins qui va les sauver, mais c'est l'ancre peut-être parfois qui, là où elle va, là on ne peut plus la voir au fond de la mer, c'est cette ancre qui peut sauver les marins. Et on voit bien que cette image, elle nous parle de nous, qui sommes pris, on le rappelle souvent dans nos moments de prière ou dans ce qu'on constate. On est dans un monde qu'on dit tourmenté, on dit que nos vies parfois sont mouvementées, et on a certainement dans nos vies des creux plus ou moins profonds, des vagues plus ou moins hautes, il y a des vents, il y a ces tempêtes, et oui, elles soufflent, et les vagues sont parfois bien hautes, et on peut avoir peur de chavirer ou d'être pris dans des rochers, mais nous avons une ancre. Et la question là, c'est pas tellement est-ce qu'on a une ancre, mais c'est où est-ce qu'on va la fixer ? Où est-ce qu'est fixée cette ancre ? Alors, peut-être un mot de contexte sur l'Épître aux Hébreux. C'est une lettre qui est écrite à des chrétiens et des croyants qui sont d'origine juive, les Hébreux. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit dans la lettre qu'il y a une tentation pour ces juifs qui se sont convertis, ces hébreux, de retourner à d'anciennes pratiques religieuses. Alors pourquoi ? Pour deux raisons, je pense, principales. La peur des persécutions, qui sont réelles à l'époque où ils vivent. Être chrétien, ce n'était pas facile. Il y a cette peur des persécutions. Et puis peut-être par une forme de lassitude spirituelle. C'est-à-dire que c'est bien d'être devenu chrétien, mais peut-être que c'était dur aussi parce qu'ils ne savaient plus trop quoi faire de ce qu'on leur avait appris par rapport à tous ces rituels. Peut-être qu'ils ne voyaient pas comment appliquer concrètement dans leur vie ce qu'on leur racontait sur Jésus par rapport à tout le système sacrificiel dans lequel ils avaient été éduqués. Et peut-être, à force, ils se demandent bien s'ils sont au bon endroit et que c'est bien de croire comme ils le font. Et tout le message de l'Épître, c'est de montrer la supériorité de Jésus-Christ en réponse à ses inquiétudes et peut-être à ses doutes sur la façon de pratiquer. Et l'Épître aux Hébreux, elle nous montre comment Jésus-Christ est le grand prêtre parfait, et ça reprend les mots qui étaient liés au culte que les Juifs connaissaient, et puis comment Jésus-Christ répond à tout ce qu'ils avaient appris sur les prophéties dans l'Ancien Testament. On leur montre, vous êtes bien au bon endroit. Si vous êtes des bons juifs, finalement, c'est logique que vous arriviez à croire en Jésus-Christ. Et il ne vient pas en contradiction, mais il vient bien accomplir tout ce qui avait été promis. Et on arrive donc à ce chapitre 6, où il y a une mise en garde contre le fait de renier la religion, contre ce qu'on appelle l'apostasie, le fait de ne plus croire. Et puis une exhortation, un encouragement très fort à persévérer. Et c'est ça qu'on a dans le chapitre 6, et c'est là qu'arrive ce verset sur l'encre de l'âme. Et l'auteur dit que Dieu a juré par lui-même qu'il accomplirait ses promesses comme il l'a fait avec Abraham. Et évidemment, Abraham, ça parle à des Juifs. Ils savent qui c'est, ils savent les promesses qui ont été données à Abraham. Il dit, voilà, comme il a été promis à Abraham, alors les promesses s'accompliront. Et cette promesse, elle est réelle, ce qui nous permet d'avoir cette espérance comme une encre solide et ferme. C'est là qu'arrive ce verset. Mais revenons un tout petit peu en arrière, au début du chapitre. Et je lirai les trois premiers versets. Où l'auteur dit, hein, c'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des ablutions et de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Bon, moi, ce que je voulais retenir, c'est surtout le début de ce passage où il dit, voilà, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait. Et cet encouragement, il est là d'avancer. Il dit, on va pas reparler de toutes ces doctrines. Je vais pas revenir là-dessus. Par contre, on va avancer. Et c'est quelque chose que Paul, on ne sait pas là si c'est Paul, hein, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas si c'est lui, mais en tout cas, il y a des résonances avec ce que Paul dit ailleurs, notamment dans la première Épître aux Corinthiens, où il dit à ceux à qui il écrit de ne pas rester comme des nourrissons, comme des nouveau-nés, de ne pas rester comme des bébés. Il leur dit la même chose, hein, d'avancer. Ça, c'est 1 Corinthiens 3. Moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, quand vous ne pouviez pas encore la supporter. Et on comprend bien que c'est pas ce que Paul veut pour les Corinthiens. Et là aussi, on a cette exhortation à avancer, à ne pas rester à un état enfantin. Et Dieu nous appelle à sortir du port. Il nous appelle à ne pas... Le voyage, il ne s'arrête pas là. C'est pas parce que tu es monté sur le bateau que c'est bon. Il faut sortir du port. Et il faut avancer. Il faut avancer vers la maturité. Alors je me demandais, qu'est-ce qui peut nous retenir au port? Peut-être chacun aura ses propres réponses. J'ai essayé de dire comment on pourrait résumer ça. Qu'est-ce qui, finalement, peut retenir quelqu'un dans un port? Peut-être la peur de l'inconnu. Le port, c'est rassurant. C'est fermé, ça fait un peu comme des bras. Il y a la jetée là, qui s'avance. C'est bien fermé. Parfois, il y a des portes, hein, à La Rochelle. Voilà, c'est bien fermé. Et c'est fait pour nous protéger. Un port, c'est fait pour nous protéger. C'est un lieu important. Et donc c'est ce que parfois on appelle, j'aime pas trop le terme, mais je pense que ça évoque la même chose, la zone de confort. On est bien dans le port. Et c'est pas facile du coup d'en sortir. Surtout si on s'imagine que ce qui va se trouver au-delà de la limite du port va être hostile, que ça va être dangereux, qu'il va y avoir des rochers, et qu'on sait pas bien naviguer. Et donc bien souvent cette peur elle vient de ce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte du port. On ne sait pas ce qui va se passer quand on aura passé cette marée. Et du coup, je me dis, un encouragement, ça va être d'apprendre à connaître. Dans le milieu maritime, il existe des cartes avec des relevés des fonds marins, avec des relevés des rochers affleurants, là où c'est dangereux d'aller selon la marée. Le marin peut connaître l'environnement qu'il aura quand il sortira du port. Mais nous aussi, on peut étudier la carte et savoir ce qui va nous attendre à la sortie du port. La parole de Dieu nous donne quelques indices et nous montre ce à quoi ressemble la vie quand on avance, quand on accepte de sortir du port. Donc la peur de l'inconnu peut nous retenir au port. Une deuxième chose, c'est peut-être si on est sur ce navire qui va sortir du port, on n'a pas envie. C'est peut-être qu'on manque de confiance dans le capitaine. Ceux qui sont montés à bord des navires de croisière, après, vous savez, vous vous rappelez cet incident où il y a un navire qui s'est couché, un gros bateau de croisière, parce qu'ils voulaient se rapprocher des côtes, parce que c'était joli, puis finalement, ils ont raclé les rochers et ils se sont couchés. Le Costa Concordia, vous vous rappelez? Bon, je pense que Costa Concordia, les années suivantes, ils n'ont pas eu trop de clients, parce que c'était peut-être difficile de faire confiance dans le capitaine. C'est-à-dire, si, pour un prétexte de nous montrer quelque chose de joli, il s'approche trop et qu'on fait naufrage, c'est voilà, pas forcément confiance, on ne veut pas forcément monter sur ce navire. Alors, bon, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais nous, notre capitaine, il est un peu différent, c'est Dieu, mais est-ce qu'on a confiance en Dieu ? Je dirais exactement comme pour la peur de l'inconnu, si on ne connaît pas Dieu, c'est difficile de lui faire confiance. Si on ne sait pas où il veut nous conduire, c'est naturel aussi qu'on ait un peu de mal, parfois, à faire un pas après l'autre. Je pense qu'on a tous un peu cette expérience où on dit « oui, alors Dieu, on le connaît de mieux en mieux ». Et c'est normal, avec les années qui passent, avec l'enseignement qu'on reçoit, avec l'étude qu'on fait de sa parole, on essaye et je crois que Dieu se révèle petit à petit à nous et on le connaît de mieux en mieux et la confiance grandit. C'est une bonne chose. Mais par contre, c'est vrai que ces plans ne sont pas marqués comme on aimerait parfois et avoir une assurance de voilà ce qui va se passer et comment... Et les étapes, et donc on va faire ci, on va faire ça, et voilà comment on va construire ensemble. On aimerait bien avoir un peu plus de précision, mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Et moi, en tout cas, je sais que parfois, mais je me dis, je me sens appelé à faire ça, mais comment je fais le pas suivant ? C'est un peu difficile, parce que je sais pas où ce pas va me conduire. Je n'ai pas l'assurance de, est-ce que je vais trouver le sol ferme comme je l'espère ou est-ce que c'est bien exactement comme ça qu'il faut marcher ? On a un peu ce doute. Et c'est normal. Il y a une réponse que Dieu nous donne face à cette difficulté de la confiance, c'est la prière. Et petit à petit, un pas après l'autre, avoir confiance dans ses plans. Il n'y a pas de solution miracle, en quelque sorte, pour dire, on saura où on ira. Mais petit à petit, on construit et on marche et on avance. Et puis, une troisième chose qui peut nous retenir, c'est le manque de force. Partir en voyage, sortir du port, ça demande de la préparation et ça demande aussi une certaine force, un certain courage. Je pense que parfois, je dépense ma force ailleurs que là où je devrais. Il y a plusieurs endroits, on peut dépenser sa force ailleurs qu'en Dieu. Des recherches de choses vaines, des richesses, des choses qui passent. On va mettre beaucoup d'énergie pour construire des richesses, pour construire des choses qui finalement ne durent pas. Des plaisirs éphémères, courir après des choses qui ont une satisfaction et qui sont plaisantes à un moment donné et qui ne sont pas forcément mauvaises. Mais si j'en fais mon objectif ultime, alors là, je passe mon temps, mon énergie dans une chose qui va pas m'être profitable. Et puis surtout, je n'aurai plus d'énergie au moment où je voudrais m'occuper de Dieu. Et j'aurai un peu une dichotomie entre ma vie, ma vie spirituelle en quelque sorte, puis une autre vie qui n'est pas forcément mal, mais qui me fait dépenser de l'énergie. Puis, je sais pas, il y a des choses toutes simples. Moi, j'ai pas encore fait ce que je vous dis à faire, de mettre un chrono sur Instagram. Parce que les vidéos de marins, c'est bien, mais ça prend du temps. Et au bout d'un moment, quand j'aurai passé, je sais pas combien de temps sur Insta, alors je dis Insta, mais vous voyez bien l'idée, il y a d'autres sites où on peut passer du temps. La vidéo de marin, elle a rien de mal en soi, mais juste si je me suis fatigué dessus, et d'autres, j'ai plus de temps pour faire ce que j'aurais envie de faire, préparer le message pour dimanche, pour juste lire ma Bible ou prier, ou être ensemble pour un moment de chant, j'en sais rien. Il y a un choix à faire. Et ne gâchons pas nos forces quand c'est facile peut-être de penser je vais limiter ça pour pouvoir avoir plus de temps ailleurs. Comptons nos forces, elles sont limitées, donc prenons-en conscience. Et je dis pas, si vous voulez aller sur Insta, je ne dis pas c'est mal. Je dis juste, comptez votre temps. Réfléchissez à ça. Et je le fais moi-même et je devrais le faire plus. Pensons-y. La parole de Dieu est là pour nous montrer le plan, nous rassurer sur ce qu'il y a derrière le port, la prière pour mieux connaître le capitaine et avoir confiance et avancer un pas après l'autre. et puis penser à comment servir et le temps qu'on aura dans ce service. Et donc, voilà, on revient à cette exhortation d'avancer. Avançons vers l'état d'homme fait. Soyons, voilà, grandissons dans la foi. Alors ensuite, dans la suite du chapitre, à partir du verset 4, je vous ai dit, hein, il parle de ces Hébreux qui sont tentés de tourner le dos. Et là, ça nous parle de la dérive du navire. Donc il nous dit, hein, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté du don céleste, et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre. Et bon, c'est un langage qui est peut-être un peu compliqué, je ne veux pas rentrer dans chaque détail, hein, mais plus loin, il dit la terre qui boit la pluie, qui vient souvent sur elle, et qui produit des herbes utiles pour ceux pour qui elle est aussi labourée, reçoit de Dieu de la bénédiction. Mais si elle porte des épines et des chardons, elle est réprouvée et près de la malédiction, et sa fin est d'être brûlée. Bon, ouais, je ne rentre pas dans les détails, mais ça nous parle un petit peu, si vous voulez, de ce que Jésus ailleurs décrit comme le terrain pierreux, vous savez, sur lequel on sème, et sur lequel finalement, voilà, soit rien ne pousse, soit ça pousse, mais ça fane très vite. Et donc ça nous parle du fait de goûter l'évangile et finalement d'ensuite lui tourner le dos. De ces croyants qui, en tout cas ces personnes qui ont été exposées à l'évangile et qui finalement s'en désintéressent. Et ailleurs dans l'épître aux Hébreux, hein, l'auteur dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Et il nous parle de ce danger de négliger. Voilà, c'est ça la dérive du navire et de ce risque d'être emporté au loin. Alors, comment ça peut se passer, ça? Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à dériver. Et finalement, on rejoint un petit peu aussi ce que je disais sur la peur de sortir du port. Mais là, on est sorti, on avance, on veut aller sur cette mer, et puis il arrive une tempête. Alors, on a parlé tout à l'heure de décès et des pertes de nos amis. C'est éprouvant, c'est difficile. On vit ce deuil et on en ressent quelque chose de fort et ça peut nous éprouver notre foi. Les maladies de nos proches, nos maladies à nous, nos incertitudes pour diverses raisons, notre anxiété qui est liée parfois au contexte mais qui est parfois juste qui vient, on ne sait pas pourquoi, on a ce caractère anxieux, Et ce n'est pas forcément lié à une circonstance, mais c'est difficile. Et tout ça, ça peut nous faire chavirer, ça peut nous entraîner loin. Mais alors, rappelons-nous que nous avons une espérance qui repose en Christ, qui est ressuscité, qui est vivant, et que nous ne sommes pas finalement à la dérive. Rappelons-nous les promesses de Dieu. Quand Dieu nous dit « Je suis avec vous tous les jours », il te dit « Je suis avec toi tous les jours ». Et oui, il y a des circonstances, mais rappelons-nous, je suis avec toi tous les jours. Et ça n'enlève pas la circonstance, mais je suis avec toi tous les jours. Je parlais des incertitudes. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi, parce que je lis la presse quotidiennement, parce que ça fait partie de mon métier, parce que je travaille sur des sujets qui sont des sujets de conflit, de guerre. Des choses sur. On parle de sécurité internationale. C'est aujourd'hui, comme je pense toujours, ce sont des sujets qui sont, comme on dit, anxiogènes. Si vous vous intéressez au sujet de climat, si vous lisez les nouvelles sur ces sujets-là, il y a rarement des bonnes nouvelles et vous allez rarement vous coucher avec le sourire. Ça fait partie des choses dans lesquelles on vit. Aujourd'hui, en France, il y a une instabilité politique. Dans un contexte qui est un contexte de guerre, c'est inquiétant. Et tout ça, on peut nous dire, mais alors, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, où est-ce qu'elle est notre sécurité, finalement? Et où est Dieu, là-dedans? Et c'est difficile, je vous dis, de répondre à ça. Moi, je crois en un Dieu qui est souverain, et j'en suis convaincu, c'est le credo. Déjà, je l'affirme, et en même temps, je vois aussi tout ce qui se passe dans le monde, et j'ai parfois du mal à mettre ensemble ma foi et ce que je veux croire, et la façon dont je constate que le monde évolue. Et il n'y a pas vraiment de réponse à ça. C'est difficile de réconcilier les deux. Mais l'Épître aux Hébreux, un peu plus loin, au chapitre 12, nous parle du royaume de Dieu. Et la lettre nous dit « Le royaume de Dieu ne sera jamais ébranlé. » Et l'expression qui est utilisée, c'est chapitre 12, verset 28, il nous parle d'un royaume inébranlable, solide. C'est ferme, c'est sûr, c'est... Voilà, ça ne bouge pas. Alors, voilà, on est dans l'incertitude de ce monde. On a des questions, des interrogations, c'est certain. Mais on a aussi une promesse, un royaume inébranlable. Et ces promesses, cette espérance que nous avons en Christ, elle nous permet aussi au quotidien, je crois, de rester constant et de rester fidèle. Et là, il y a une façon dont nous pouvons nous comporter malgré les incertitudes de ce monde, malgré nos doutes, malgré tout ce qui semble nous échapper, plutôt que de vivre dans l'angoisse, alors on peut essayer de choisir d'avancer avec confiance et de rester attaché sur cette promesse d'un royaume inébranlable et d'une confiance dans une ancre qui est au-delà du voile, qui est fermement établie, qui est fermement ancrée. Et ça va influencer nos choix. Les circonstances, je disais, ne vont pas changer, mais soit il y a, comme mes collègues l'autre jour, face à la mort, une sorte de désespoir, du désespoir, et face aux circonstances du monde, on peut l'absorber et vivre dans cette angoisse qui nous est transmise, soit essayer de semer la paix, la bonté, la fidélité, et essayer d'avoir une attitude qui, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, montre que nous sommes attachés à Christ et que, oui, nous voyons ce qui se passe, nous ne sommes pas aveugles, nous ne nions pas la réalité du monde, mais nous essayons concrètement d'y apporter la lumière, le sel, d'avoir cette espérance qui est transmise. Et alors, pour que ça fonctionne, ça, il faut veiller à nos racines, à notre ancrage. Là où nous pouvons rester accrochés. Nous sommes accrochés d'abord à ce capitaine qui tient sa promesse. Cette dérive possible de notre navire, on a ce capitaine Dieu qui, lui, tient sa promesse. Et l'Épître aux Hébreux développe ça à partir du verset 9, où il parle de Dieu en disant, on va dire verset 10, hein, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore. » Donc Dieu n'est pas injuste. Et puis, un peu plus loin, il parle de la promesse que Dieu a faite à Abraham à partir du verset 13. Il montre que Dieu a fait sa promesse à Abraham puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même, disant « Certes, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. » Et ainsi, Abraham, ayant eu patience, obtint ce qui avait été promis. Voilà, Dieu n'est pas injuste, et Dieu promet. Dieu fait une promesse. Et ça nous renvoie directement à la Genèse, au chapitre 22, où Dieu parle à Abraham, en tout cas, Abraham reçoit cette promesse. J'ai juré par moi-même, parce que tu as fait cette chose-là, que tu n'as pas refusé ton fils. Hein, donc il lui parle du sacrifice d'Isaac. Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Ces paroles, ton fils, ton unique. Certainement, je te bénirai et je te multiplierai abondamment. Et ta semence sera comme les étoiles des cieux, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta semence possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. Parce que tu as écouté ma voix. Voilà ce que Dieu dit à Abraham au chapitre 22 de la Genèse. Et Dieu, qui ne peut pas mentir, Ça, c'est dans le livre des Nombres. Hein. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il a juré par lui-même. Il s'engage personnellement. Il y a cette promesse qui est immuable, ce serment qui a été fait. Voilà, ces deux éléments, une promesse faite à Abraham, un serment qui est fait, et Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a promis va s'accomplir. Voilà le capitaine que nous avons. Et je crois que ça nous encourage quand même sur notre chemin et sur notre navire. Voilà, quand on a des doutes, quand on est pris dans la tempête, on dit « Ok, en qui je crois ?» Je crois en celui qui ne peut pas mentir et qui a fait des promesses, et elles sont sûres. Alors, notre sécurité, elle reposera ultimement sur la fidélité de Dieu et non pas sur nos forces. Donc quand on voit que ça tourne, ça tangue, ça flotte, eh bien, ce n'est pas nos forces, c'est la fidélité de Dieu qui compte. Et ça, c'est important parce que parfois, on ne le sent pas, vous savez. On dit qu'on ne se sent pas, on ne sent pas l'amour de Dieu, on ne sent pas cette relation, on sent parce qu'on est pris et puis on est sec et intérieurement, on a un peu ce désert. Et bien, je pense que en se relisant ces versets et en se rappelant qui on croit, peut-être que l'exercice sera un peu intellectuel, mais n'empêche que quand on est sec, quand on ne ressent plus, il ne reste plus que ça de se dire « mais en fait, ça ne dépend pas de ce que je ressens, ça ne dépend pas de ma force, ça ne dépend pas de ma qualité à ressentir, ça dépend de ce que Dieu a dit. » Et donc nos émotions, nos sentiments, ils sont importants, il faut les prendre en compte, ils nous disent quelque chose de nous-mêmes, mais quand parfois nos sentiments sont aussi tristes, négatifs, on a parfois, pour moi-même, tendance à se dévaloriser peut-être, je me rappelle que c'est en fait, ça ne dépend pas de ce que moi je suis en train de ressentir là, ça dépend de ce que Dieu a dit. Et donc ça n'enlève pas que j'ai ce sentiment, mais là encore, ça dépend de lui. Et donc nos émotions, oui, mais surtout ce que Dieu dit, et c'est ça qui est solide. Et on arrive donc à la fin de ce chapitre, où il est question de cette ancre. Alors d'habitude, je relis à ce verset, hein, « Saisir l'espérance proposée, laquelle nous avons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, et qui entre jusqu'au dedans du voile où Jésus est entré comme précurseur pour nous. » Alors d'habitude, où est-ce qu'on jette l'ancre ? Quand on est sur un bateau, on la jette dans l'eau, n'est-ce pas ? On la jette vers le bas. Et donc c'est là où l'image, elle est un petit peu quand même surprenante dans l'Épître aux Hébreux. C'est que là, pour le coup, il nous dit en fait l'ancre, vous allez l'acheter dans le ciel. Et c'est là que ça va être solide. Alors, voilà, ça c'est surprenant. Là, on attendait l'image traditionnelle du bateau. Et finalement, cette ancre, elle n'est pas tout à fait comme celle des navires qui naviguent. Notre espérance, elle est cette ancre qui pénètre au-delà du voile. Alors, on ne va pas faire une exégèse longue de ce que ça veut dire de pénétrer au-delà du voile, mais tout simplement, peut-être pour vulgariser, hein, c'est le temple avait plusieurs espaces, et l'espace le plus saint, le saint des saints, c'est tout au fond, et vous savez que c'est là où il y avait seulement une fois, de temps en temps, le grand prêtre qui pouvait rentrer et être dans la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu était séparée de là où les Juifs pouvaient aller, et là aussi c'était séparé de là où ceux qui n'étaient pas Juifs pouvaient aller. Donc il y avait différents espaces, et là on nous dit l'ancre, elle est ancrée dans l'espace le plus saint, au-delà du voile, au-delà de cette séparation ultime avec le lieu très saint. C'est la présence de Dieu, c'est là où normalement on ne pouvait pas entrer, sauf cas exceptionnel, et sauf si on était ce grand prêtre qui avait cette autorisation, quelque part, d'entrer une fois de temps en temps. Et bien là, on sait que ce voile, alors ça, le voile, on nous dit, il a été déchiré au moment de la mort de Jésus. Et on peut nous-mêmes rentrer dans ce lieu, mais c'est là, en tout cas, que voilà, notre espérance est ancrée. Elle est dans la présence de Dieu. Et Jésus, c'est celui qui est notre précurseur, parce qu'il est entré avant nous, il est allé lui-même dans la présence de Dieu, pour ouvrir l'accès. Et c'est ce qu'on chante régulièrement, qu'on a cet accès au ciel cet accès à Dieu lui-même, cette présence de Dieu. Et alors, en fait, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça reprend toutes ces images qu'on trouve dans les psaumes, où on nous parle de Dieu comme le rocher de mon salut, ma haute retraite, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu, dit le psalmiste, et le rocher sur lequel on va pouvoir s'ancrer, on va pouvoir attraper, l'ancre va pouvoir s'accrocher et nous retenir. Cette solidité-là, elle est au-delà du voile, c'est quelque part le même endroit. C'est Dieu le rocher, c'est en lui qu'on s'ancre, on est dans cette présence de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, nous parle aussi de l'espérance des chrétiens. Elle nous dit, voilà, l'apôtre Paul écrit, chapitre 8 de l'Épître aux Romains, au verset 24, « Nous avons été sauvés en espérance. » Alors une espérance qu'on voit n'est pas une espérance, car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il ? Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. Voilà, nous attendons avec patience. On a cette encre et cette attente qui est vivante, et on peut avoir les yeux tournés vers ce salut qui nous a été donné. Et puis je lirai aussi ce verset dans la première épître de Pierre, au premier chapitre. Premier chapitre, au tout début, on nous parle de « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux pour vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Ouais, nous avons cette espérance vivante, cet héritage qui est incorruptible. On parlait tout à l'heure du royaume qui lui-même était inébranlable. Voilà, cet héritage incorruptible. Voilà où se trouve notre ancre. Dans la fidélité de Dieu, dans l'œuvre qui a été accomplie par Jésus-Christ, dans la réalité de ce royaume qui sera éternel. Et l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 9, dernier verset que je lirai, chapitre 9, verset 24, « Le Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main, copie des vrais. » Donc c'est pas dans le temple et dans une forme terrestre, mais il est rentré dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Voilà, quand on parle de Jésus-Christ, notre précurseur, c'est ce que Jésus a fait après sa mort, et après être entré à nouveau dans la présence de Dieu, il va directement dans le ciel, dans la présence de Dieu, et ce que l'Épître veut nous faire comprendre, c'est que non seulement lui, mais nous avec lui. Et voilà, c'est comme ça qu'il décrit notre espérance, c'est d'être enfin dans cette présence. Et donc, peu importe la tempête, notre avenir, notre espérance est déjà fixée dans le ciel. Jésus-Christ est entré dans les lieux saints et il a été là pour ancrer fermement notre espérance. Donc, ne nous arrêtons pas en chemin, comme les Hébreux qui étaient tentés peut-être de retourner en arrière. Avançons vers la maturité spirituelle. Et rappelons-nous de ces aides, la parole de Dieu, la prière, le service. Ne jetons pas l'ancre au mauvais endroit. Nous avons cette ancre, pensons qu'elle est bien ancrée en Jésus-Christ et c'est de là que nous attendons notre salut. Et encourageons-nous mutuellement. C'est ce que fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il le dit, retenons fermement la possession de notre espérance. Ça, c'est ce qu'il écrit au chapitre 10. Retenons cette espérance. N'abandonnons pas l'assemblée. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est là qu'on va pouvoir s'encourager. Si on abandonne l'assemblée, si on n'est pas là avec nos frères et sœurs, on ne peut plus avoir ce soutien mutuel. Donc soutenons-nous mutuellement, cherchons le contact d'autres croyants. Et quand on est ensemble, encourageons-nous à nous rappeler là où est notre espérance. Voilà, donc cette vie est une traversée, hein, je disais, les tempêtes, elles sont réelles. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'est ton ancre? Où est-ce qu'est mon ancre? Est-ce qu'elle est dans voilà, le sable mouvant qui est présenté devant nous dans ce monde et voilà, les choses qui passent? Ou est-ce qu'elle est bien dans la présence éternelle et ferme de Dieu? Et la bonne nouvelle, c'est que si ton ancre, comme mon ancre, est en Christ, alors le navire tiendra ferme.